Tout d'abord, je voudrais remercier évidemment toute l'équipe des Jeudis en question de me donner l'opportunité de vous parler de la société civile africaine en m'inspirant évidemment du livre que j'ai écrit à ce sujet. C'est un livre, le titre c'est « Tout n'est pas blanc et noir » en Afrique comme ailleurs. C'est un livre qui invite à porter un autre regard sur les Africains, mais plus particulièrement sur la société civile africaine, en remettant en cause un certain nombre de préjugés qui sont solidement ancrés dans la société française. Là, je ne vous apprends rien. Donc, ce livre, en fait, donne directement la parole à des citoyens originaires d'Afrique de l'Ouest qui nous parlent de leur travail, de leur réalisation, de leur combat, des hommes, des femmes qui sont à la fois ouverts et lucides et qui nous amènent à découvrir une société africaine active, solidaire, combative. C'est le parti pris de ce livre, une société, je répète, solidaire, active, combative, et qui est à milieu des idées reçues, de nombreuses idées reçues. Et ces idées reçues, je précise tout de suite, elles viennent de loin, elles ne datent pas d'aujourd'hui, c'est le moins qu'on puisse dire. Hein ? Et elles ne sont pas non plus l'apanage des hommes de droite et d'extrême droite, des icônes de la gauche, des icônes de la culture française ont dit et écrit des aberrations à ce sujet. Alors, avant de démarrer et de parler de la société civile africaine, je vais jouer au petit jeu des citations. Citations qui sont bien connues, vous connaissez certainement, mais qui n'est pas inutile de rappeler, je pense, en introduction. Et on va commencer par notre ami Voltaire, qui écrivait et qui s'est battu toute sa vie contre les préjugés, et qui écrivait d'ailleurs, entre autres, que les préjugés sont la raison des sots, en effet. Mais lui-même n'en était pas exempt, puisque, je cite évidemment, il a écrit « Je vois des hommes qui sont supérieurs à ces nègres le sont aux singes et comme les singes le sont aux huîtres. » Voltaire qui estimait que les nègres, toujours entre guillemets évidemment, sont une espèce d'hommes différentes. Je cite encore « Leurs yeux ronds, leur nez épaté, leurs lèvres toujours grosses, la laine de leur tête, la mesure même de leur intelligence » mettre entre eux et les autres espèces d'hommes des différences prodigieuses. Bon, à la même époque, enfin quelques dizaines d'années plus tard, Hegel était encore plus radical, puisqu'il estimait que le nègre, toujours entre guillemets évidemment, représente l'homme naturel dans toute sa barbarie, et qu'il n'y a rien dans son caractère qui s'accorde à l'humain. Mais même notre ami Victor Hugo, et oui, le petit Hugo, a dit aussi des bêtises à ce niveau-là, des énormes bêtises, des aberrations. C'était précisément, et bon, c'est cité d'ailleurs en introduction du livre dont je vous ai parlé, c'est repris aussi dans mon livre évidemment, il disait, c'était en 1879, donc 31 ans après l'abolition de l'esclavage en France, c'était en 1848, enfin, pour être précis, petit aparté, c'était en 1700, ça a été aboli par, l'esclavage a été aboli par la Convention en 1794, et rétabli par Bonaparte en 1802, puis aboli en 1848. Avec comme tête de file d'ailleurs le combat pour l'abolition, c'était Victor Schœlcher. Et Victor Schœlcher, précisément, en 1879, je reviens, il y avait un banquet qui commémorait les 31 ans de l'abolition de l'esclavage. Et c'est lui qui va donner la parole à Victor Hugo, à ce banquet, qui va prononcer un discours, qui va soulever l'enthousiasme des 120 convives présents. C'était les amis de la race noire qui organisaient ce banquet, je précise. Et Victor Hugo dit que, la Méditerranée est un lac de civilisation, avec d'un côté toute la civilisation et de l'autre côté toute la barbarie, que l'Afrique n'a pas d'histoire, déjà. Peuplée, c'est la barbarie, déserte, c'est la sauvagerie, qu'au XIXe siècle, le blanc a fait du noir un homme, qu'au XXe siècle, l'Europe fera de l'Afrique un monde, et il terminait en disant « Allez, peuple, emparez-vous de cette terre, prenez-la, à qui ? À personne. Dieu donne l'Afrique à l'Europe, prenez-la. » Victor Hugo. On continue avec les citations. « Même époque, Ernest Renan, l'humanisme chrétien, l'auteur de l'histoire des origines du christianisme, qui déclarait, qui estimait que la régénération des races inférieures ou abattardies, je cite évidemment, hein, par les races supérieures, est dans l'ordre providentiel de l'humanité. La nature a fait une race d'ouvriers, c'est la race chinoise. Elle a fait une race de travailleurs de la terre, c'est les nègres. Elle a fait une race de maîtres et de soldats, c'est la race européenne. Que chacun fasse ce pourquoi il est fait, tout ira bien. Voilà. Même époque aussi, à l'Assemblée nationale, a lieu un débat auquel participe Jules Ferry, qui explique que les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures, parce qu'elles ont un devoir. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. Bien, on pourrait jouer au jeu des citations, Charles de Foucault, Léon Blum, on pourrait dire beaucoup de choses à ce niveau-là. Je vais terminer par Albert Schweitzer, donc on saute un siècle, on arrive au milieu du XXe siècle. Schweitzer, qui, je le rappelle, a obtenu le prix Nobel de la paix, qui a vécu d'ailleurs longtemps en Afrique, et qui disait que le primitif, ne connaît que des jugements de valeur élémentaires, mais quand il a affaire à un blanc, il sent avec une intuition infaillible si celui-ci est une personnalité morale. Alors il s'incline et reconnaît son maître. Voilà, nous sommes au milieu du XXe siècle quand même. Bon, alors, évidemment, on pourrait reprendre au niveau de cette histoire des préjugés, ça me paraît important de les rappeler. Citer les zoos, parler des BD, Tintin au Congo, on pourrait citer la publicité, Yann Banania, la liste serait longue de ces préjugés, n'est-ce pas? Mais je vais vous reparler un petit peu pour dire, pour revenir là-dessus, je repense à un expert de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, qui dans les années 50 se permettait de comparer un Africain normal à un Européen lobotomisé. L'OMS. Dans les années 60, beaucoup d'historiens, la plupart, enfin une majorité d'historiens en tout cas, occidentaux, considéraient que l'Afrique n'avait pas d'histoire. Il y avait même un historien de l'université d'Oxford qui pérorait en disant que il y a seulement l'histoire des Européens en Afrique. Avant, il n'y a que les ténèbres ne sont pas un sujet d'histoire. Alors, comme vous le savez évidemment, c'est pourtant le continent, on considère que l'Afrique est le berceau de l'humanité, vous le savez très bien. Il serait intéressant de rappeler aussi, mais ce sera à l'occasion, puisqu'on parlait du discours de Dakar, que c'est un certain Cheikh Anta Diop qui a donné son nom à l'université où Sarkozy a prononcé son fameux discours, qui rappelait que l'Égypte fait bel et bien partie de l'Afrique et que l'histoire de l'Égypte ancienne est partie et fait partie intégrante de l'histoire de l'Afrique. On l'a oublié, ce qui ne plaisait pas du tout à l'époque et ce qui a posé beaucoup de problèmes d'ailleurs. Puisqu'on avait tendance même à préciser que les Égyptiens étaient brun foncé à l'époque, ils n'étaient pas noirs mais brun foncé. Enfin bon, bref, on y reviendra. L'histoire, pour en rester à l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, simplement un bref rappel, dire que les céramiques de Oundjougou au Mali sont parmi les plus anciennes connues au monde, que les vestiges de la cité de Djéné, toujours au Mali, ont plus de 2000 ans, que au cours du Moyen-Âge, l'Afrique a eu des empires qui ont été connus par la fois pour leur puissance, leur richesse et leur culture. Au 8e siècle, l'empire du Ghana, qui contrôlait toutes les caravanes qui traversaient le Sahara et qui exploitaient d'immenses gisements d'or. Au XIIIe siècle, Soundiata Keïta, le fondateur de l'Empire du Mali, a promulgué une charte, la charte du Mandé, qui fait partie d'ailleurs, entre parenthèses, du patrimoine immatériel de l'humanité, classé par l'UNESCO, charte du Mandé, qui défendait les droits, les principaux droits humains, déjà à cette époque-là, et qui abolissait l'esclavage. En 1222, ça a été promulgué, 1222, 1848. Bon, ensuite, je parlais de l'Empire du Mali, le siècle suivant, donc au début du XIVe siècle, l'un de ses successeurs a fait effectuer un pèlerinage à la Mecque, qui est resté dans l'histoire parce qu'il a distribué une telle quantité d'or en chemin, il a même fait chuter le marché de l'or, le cours de l'or sur le marché du Caire. Au XVe siècle, l'Empire Songhaï régnait sur une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Et au XVIe siècle, c'est le village d'or de Tombouctou. Tombouctou qui était à l'époque une ville qui était plus peuplée même que Marseille, que Venise, que Londres de l'époque, et qui abritait deux universités. On parle de plusieurs milliers, voire de dizaines de milliers d'étudiants. Ces universités qui attiraient des savants et des lettrés de tout le monde islamique. Bref. L'histoire de l'Afrique de l'Ouest, donc, ne se résume pas, n'a pas démarré, n'a pas commencé avec l'arrivée des premiers Européens au XVe siècle, mais elle ne se limite pas non plus à l'histoire de la traite atlantique, à l'histoire de la colonisation, à l'histoire des indépendances, évidemment. Bon, on laisse l'histoire, on revient au XXIe siècle, pour voir, on a déjà parlé, on a fait allusion au fameux discours de Dakar, vous savez, le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire, jamais il ne s'élance vers l'avenir, jamais il ne sort de la répétition pour s'inventer un destin, etc., etc. Un discours qui le dispute entre ignorance et arrogance. Bon, ben justement, ce livre, et il y en a eu d'autres d'ailleurs, merveilleusement répondu à ces aberrations, mais c'était en 2007, ça. Hein? En 2007, ce qu'on connaît moins, c'est qu'à la même époque, un prix Nobel de médecine, James Watson, qui est biologiste, généticien, qui dirigeait un grand institut de recherche aux États-Unis, expliquait, toujours en 2007, donc, que les politiques d'aide à l'Afrique noire ne peuvent pas fonctionner parce qu'elles sont basées sur l'idée que les noirs sont aussi intelligents que les blancs. Or, toutes les données génétiques prouvent le contraire. 2007. Bon, petite parenthèse pour dire qu'il précisait aussi, ce généticien, qu'on pouvait guérir la bêtise par la génétique. Bon. Voilà. Donc, continuons. Bon, j'arrête là, si vous voulez, au niveau de ce passé, simplement pour vous dire qu'au niveau des médias, et en tant que journaliste, on doit balayer devant notre porte, parce qu'il est vrai que souvent, à la télévision en particulier, mais aussi dans beaucoup de journaux, on a tendance à ne parler de l'Afrique, à ne présenter l'Afrique que des images de mort, de misère, de maladie, de guerre, de tribus, de sauvagerie, etc. On ne dit pas que tous ces drames sont bien réels, bien sûr qu'ils le sont, la question n'est pas là, mais il n'y a pas que ça, il n'y a pas que cette vision, et l'Afrique ne se limite pas à cela. Ça me paraît très important. Je ne sais pas ce qu'on dirait si un journaliste africain, par exemple, venait ici dresser un panorama de la vie quotidienne des Français, et qu'il multipliait les reportages sur les agressions racistes, la violence des banlieues, la misère des SDF, le suicide des jeunes, la maltraitance des vieux, voire les plastiques cages corses, pourquoi pas, etc. Ça serait évidemment un point de vue caricatural. Alors, revenons à la société civile africaine. Je vais vous donner quelques exemples, évidemment. Je ne peux pas tout donner, ça paraît évident. Vous parlez des paysans, justement, ceux qui ne sont pas assez entrés dans l'histoire. Il paraît intéressant d'aller les voir. Alors, je précise que pour ce livre, je suis... Alors, contrairement à ce que tu as dit tout à l'heure, excuse-moi de corriger, je n'ai pas vécu des années en Afrique. Je connais bien l'Amérique latine, j'ai vécu par contre 6 ans. Mais l'Afrique, je suis simplement allé en Afrique de l'Ouest, à différentes reprises, enfin, en effet. Et pour ce livre, 3 mois, j'ai parcouru en effet 10 000 kilomètres, j'ai interviewé plus d'une centaine de personnes, c'est clair. Et je me suis intéressé, mais voilà, donc on en retrouve un certain nombre dans ce livre. Voilà. Alors, dont le témoignage de Yacouba Sawadogo. Yacouba Sawadogo, c'est un paysan burkinabé, qui est aujourd'hui âgé de 70 ans, qui à l'âge de 30 ans a repris les terres de son père, et il a commencé à pratiquer le zaï. Le zaï, c'est une technique ancestrale qui consiste, je ne suis pas un spécialiste, à creuser de petits trous peu profonds, de 15 à 30 cm de profondeur, et pour y recueillir les eaux de pluie, à la saison des pluies évidemment. Alors lui, il a amélioré la technique. Souvent, le zaï s'effectue à l'occasion de la saison des pluies. Lui, il l'a fait avant la saison des pluies. Et puis, il a essayé de récupérer des matières organiques apportées par le vent, des feuilles, des graines, etc., qu'il a recouvert d'un peu de terre. Ce qui fait qu'à la saison des pluies, ensuite, il a pu semer, mais avant même la saison des pluies, des graines de sorgho et de mil. Alors, les résultats ont été à la fois exceptionnels et inespérés, puisqu'il a pu, non seulement il a pu décupler ses rendements, mais en plus, au milieu des graines de sorgho et de mil, on y a retrouvé des jeunes pousses d'arbres, des arbres, des environs évidemment, des limiers, des acacias, etc. Et depuis, il s'en est occupé, il en a pris soin. Et l'interview que j'ai réalisée s'est passée, c'était en 2010, 2011, peu importe, fin 2010, début 2011 en tout cas, et ça s'est réalisé dans une forêt, tout simplement. Et il y a une trentaine d'hectares de forêt qui ont été restaurés, si vous voulez, créés à partir de là, en une quarantaine d'années. C'est assez impressionnant. Évidemment, son exemple a été suivi par tous les paysans des environs qui sont venus lui demander conseil. Il y a même une association qui a été créée, l'association ZAI pour le développement, en 93, si je me souviens bien. Et puis, évidemment, la presse locale s'est intéressée à ce qu'il a fait. Et il a été amené à en parler dans la région, évidemment, dans la région de Guayaguilla, parce que ça s'est passé, c'est dans la région de Guayaguilla, dans le Sahel. Et puis il est amené à en parler dans des pays voisins, etc. Alors tout ça, toutes ces techniques qu'il a mises au point, fait partie de ce qu'on appelle en Afrique l'agroforesterie, ce sont l'intégration des arbres en fait à la production agricole, techniques de régénération naturelle assistée aussi, hein, qui permettent de restaurer le couvert végétal pour reproduire, pour retrouver un peu pour permettre de cultiver de nouveau l'huile, du sorgho, etc. Alors les techniques sont très différentes. Là, je parlais du zaï, qui a été amélioré par Yacouba, mais il existe au Mali, donc au Mali à côté, dans les régions d'Ogon, d'ailleurs la falaise de Bandiagara, entre Ndé et Bankas, pour ceux qui connaissent, et où là, il y avait un autre problème. Il n'arrivait toujours pas à avoir suffisamment d'arbres et suffisamment de couverture pour... couverture végétale, évidemment. Pour planter du mil et du sorgho, donc il fallait restaurer la coupe abusive des arbres verts, ce qu'ils ont fait en s'organisant, les paysans d'Ogon de la région de Ndé, et en quelques années, ils ont permis au couvert végétal de se rénover, de se restaurer, et de nouveau, ils ont pu cultiver du mil et du sorgho. Mais ça existe aussi au Niger, la technique des demi-lunes, qui sont des trous de 2-3 mètres de diamètre avec en aval des monticules de fer de terre en forme de demi-lune, si vous voulez. Il existe aussi la technique des cordons pierreux. C'est au Burkina où c'est appliqué par les groupements NAM. Ce sont des sortes de murettes de pierre à la saison de pluie qui arrêtent donc les pluies, qui permettent de cultiver du riz en aval et en amont. Bref, un tas de techniques. Et qui sont des techniques paysannes mises au point par les paysans eux-mêmes, qui sont simples, qui sont efficaces et qui sont peu coûteuses et qui n'ont besoin ni d'ajustement structurel ni de brevet quelconque, mais très efficaces. Alors, efficace, un universitaire néerlandais, là je vais citer un article du Monde Diplomatique, a découvert à partir de photos satellites que des centaines de milliers d'hectares ont été restaurés de cette façon par les paysans. Voilà. Il existe d'ailleurs même un mouvement qui existe au Sahel, dans les pays que je vous ai cités, qui s'appelle Reverdir le Sahel, et qui a été créé pour continuer dans ce processus. Alors, reboisement, restauration des sols, oui. Reboisement, un autre exemple, si vous voulez bien, de reboisement, le reboisement de la mangrove. Et là, je vais vous parler de quelqu'un d'autre, Haïdar El Ali, sénégalais, qui lui est un plongeur professionnel, il est à la tête de l'Océanium, qui est un centre de plongée sous-marine à Dakar, sur la corniche, pour ceux qui connaissent, et qui s'est engagé dans le reboisement de la mangrove. Il a démarré dans un petit village de Casamance, Tobor, en 2006. Il a réussi à mobiliser environ 300 jeunes, et ils ont planté autour de 60 000 palétuviers. L'année suivante, il a mobilisé une dizaine de villages, ils ont planté près de 500 000 palétuviers, et en 2010... il avait mobilisé plus de 500 villages, 520, je ne me souviens plus, mobilisé plus de 110 000 personnes, et ils ont réussi à planter plus de 62 millions de palétuviers. Voilà, l'histoire de... Alors la mangrove, c'est important évidemment, non seulement parce que ça limite l'érosion et de la côte, parce que c'est important pour la reproduction du poisson, évidemment, c'est important parce que ça alimente en bois la population, mais c'est aussi très important pour les paysans parce que ça limite la salinisation des sols. Et à Tobor, par exemple, en quelques années, en 4-5 ans, les paysans de Tobor ont pu récupérer 30% des champs de riz perdus auparavant. Voilà. Alors, comme l'explique d'ailleurs Haïdar El Ali, quand on lui en parle, il dit la protection de l'environnement au Sénégal, ce n'est pas surtout de l'écologie, c'est plus que tout de la survie, tout simplement. Bon. Je vais vous parler d'autre chose, un autre exemple. Parlons du théâtre. Théâtre africain. Bon, pourrais parler d'autre chose, mais on verra ça après. Théâtre africain, je vais vous parler du théâtre d'intervention sociale, ou, qui était également appelé théâtre pour le développement. Alors, ça se fait soit sous forme de théâtre débat, théâtre forum, ou même théâtre communautaire. On l'appelle également théâtre utile au Mali. Alors, au Burkina Faso, le théâtre, c'est un théâtre qui est, comment vous dire, qui a pour objectif d'améliorer le bien-être de la population en modifiant les comportements, les habitudes. C'est un théâtre qui est fondamentalement, donc à caractère culturel, c'est évident, éducatif, c'est évident, qui est fondamentalement politique, qui revendique l'éveil des consciences. évidemment, alors les thèmes qui sont traités dans ce théâtre, alors c'est un théâtre qui, il faut préciser, qui est gratuit, c'est un théâtre qui se passe toujours dans les langues vernaculaires, et c'est indispensable, c'est un théâtre qui s'adresse directement aux communautés de base, donc aux villages ou aux quartiers populaires, et ce sont toujours les comédiens qui se déplacent, qui vont dans les villages, qui vont dans les quartiers. Alors, je parlais de théâtre débat, j'assistais à une séance de théâtre débat, c'était à Waïkouya, dans le nord-ouest du Burkina Faso, par exemple, c'était dans un quartier populaire. La pièce portait sur la limitation des naissances, planification des naissances, tout simplement. C'était une farce qui était jouée, il y avait 9 comédiens, je crois, 6 hommes et 3 femmes, et ils jouaient une farce, c'était une femme qui était de nouveau, qui avait un bébé dans les bras, qui était de nouveau enceinte, et qui se plaignait d'être toujours enceinte, trop régulièrement enceinte. Et il y a son mari qui arrivait, qui voulait faire l'amour avec elle, et refusait, d'où le débat, etc. Une farce, avec un jeu très expressif, très vivant, très enjoué. Et dès la fin de la pièce, il n'y a pas eu du tout de salut final ni d'applaudissement, mais les comédiens ont engagé immédiatement un débat avec le public sur la planification des naissances. Et à un moment, l'infirmier du quartier, qui était d'ailleurs à côté de moi, qui me traduisait en partie la pièce, est intervenu pour répondre aux questions des spectateurs. Parce qu'il est intéressant de noter que dans le théâtre africain, les spectateurs sont rarement passifs. Ils participent, ils interviennent, ils interpellent les comédiens. Et c'est d'autant plus le cas dans le théâtre forum. Je parlais du théâtre débat, théâtre forum. Théâtre de forum, là, il ne s'agit plus de débat. Il s'agit qu'à la fin de la pièce, il y a un spectateur, qui a un ou une spectatrice, intervient. Ils interviennent pour changer le cours de l'histoire. Je vais prendre un exemple tout simple. Il y avait une pièce sur l'excision que jouait la troupe que je connaissais en question, la troupe Arcane, et qu'ils ont joué pendant 6 ans. La pièce s'appelait, je crois, s'intitulait Le couteau de la mort, comme Barga, je crois, en bourré. Et donc, dans la pièce, ils faisaient mourir de petites filles suite à une excision. Donc, ça obligeait les spectateurs et les spectatrices à intervenir, ce qui était le cas. Beaucoup de femmes intervenaient, mais aussi des hommes. Et ils intervenaient pour changer le cours de l'histoire. Donc, ils se débrouillaient pour que dans le cours de l'histoire, il n'y ait pas d'excision et que ça n'aboutisse pas à ce genre de résultat, à la mort des enfants. C'est ce qu'on appelle le théâtre forum, qui est très utilisé. Il y a aussi le théâtre communautaire. Le théâtre communautaire, il faut citer quelqu'un, c'est Prosper Compaoré, qui est professeur d'art dramatique à l'université de Ouagadougou, et qui est également le formateur, le metteur en scène et le fondateur de l'atelier du théâtre burkinabé. Alors là, théâtre communautaire, le principe c'est que c'est les comédiens qui vont se déplacer, qui vont directement dans le village, dans un quartier populaire, et ils vont amener l'ensemble de la population, différents groupes évidemment, c'est-à-dire les hommes d'un côté, enfin les anciens d'un côté, les hommes, les femmes, les jeunes, filles et garçons, les enfants, à exprimer à travers le théâtre leurs préoccupations, leurs problèmes et leurs situations. Et ensuite, les propositions les plus intéressantes sont mises, sont théâtralisées et sont présentées devant l'ensemble de la communauté. Alors, ce n'est pas anecdotique ce théâtre, loin de là, parce que Prosper Compaoré me disait qu'il a formé depuis au moins une trentaine d'années, plus d'une centaine de troupes, et qu'il y a des années où il y a 1 million de spectateurs qui sont amenés à voir du théâtre, théâtre d'intervention sociale au Burkina Faso. Ce théâtre existe aussi dans les pays voisins, dans d'autres pays, parce qu'il a été amené, le théâtre forum en particulier. Il fait penser, pour ceux qui connaissent, au théâtre de l'opprimé, de Augusto Boal, mais ce n'est pas une copie du théâtre de l'opprimé brésilien, Augusto Boal, hein, du tout. Ils le connaissent, ils ont travaillé ensemble, évidemment, mais ça fait bien partie du théâtre africain. Voilà un théâtre créatif, innovant le moins qu'on puisse dire, et qui n'a pas besoin des lumières culturelles de l'Europe pour avancer et créer de nouvelles voies, et nouvelles voies au niveau du théâtre. Voilà. Alors, je vais peut-être pas trop tarder, je ne sais pas où j'en suis au niveau du temps, mais je pense qu'on avait dit autour d'une demi-heure. Je pourrais vous parler, évidemment, des différents témoignages. Je vous parler, par exemple, de témoignages de femmes, comme Aminata Diallo, qui est professeure, qui est enseignante, qui est professeur de philosophie dans un lycée de Bobo Dioulasso, au Burkina Faso, et qui a créé une association, Maya Bobo, pour lutter en faveur de la rescolarisation des filles et des jeunes adolescentes en particulier. Voilà. Je pourrais vous parler de Marie-Dominique Toé, qui est une femme handicapée, burkinabé, qui a créé, elle, un atelier de conditionnement de céréales et de produits alimentaires, où elle fait travailler une quinzaine de femmes handicapées. Je pourrais aussi vous parler de l'histoire de Bibiane Yoda, qui est responsable du réseau Femmes en Action au Burkina Faso, et qui réseau qui donne surtout des formations à des femmes, évidemment, pour créer des activités régénératrices de revenus. Vous parlez de qui Aminata Traoré, évidemment, dont on a parlé tout à l'heure, qui est donc cette figure écrivaine malienne, qui a été ministre de la Culture et qui est la figure de proue de l'altermondialisme africain. Vous parlez de musiciens ou de rappeurs comme... j'ai oublié de vous parler de Mariama Chiptaou, excusez-moi, qui, elle, est une enseignante nigérienne, qui a été la première femme nigérienne à être élue à la tête du principal syndicat d'enseignants du Niger, qui est le SEN, je crois, qui réunit près de 45% des enseignants nigériens, d'après ce que l'on m'a dit. Syndicat important. Voilà. Et vous parlez donc de musiciens ou de rappeurs comme Didier Awadi, le rappeur sénégalais, qui a écrit « Notre monde est possible », etc., etc. Bon. Altermondialiste, évidemment, et qui a participé activement à l'organisation du Forum social mondial à Dakar en 2011, entre autres. Parler de Smokey, des rappeurs burkinabés Smokey, que vous connaissez peut-être, et de son collègue et compère Sam Skaleja, qui est un musicien de reggae. Ils sont tous les deux burkinabés. Et ils ont créé en 2013, l'un en tant que rappeur et l'autre en tant que musicien, un mouvement, le Ballet Citoyen. 2013. Ce mouvement est important puisqu'il a été l'un des principaux instigateurs des manifestations massives qui ont conduit à la chute et à la fuite piteuse de Blaise Compaoré en octobre 2014. Voilà. Je pourrais vous parler aussi de qui ? De militants syndicaux, par exemple Ousmane Tiendré Beogo, qui a créé un syndicat paysan pour lutter contre l'implantation des OGM au Burkina. Et c'est loin d'être gagné, le moins qu'on puisse dire. Vous parlez d'un éducateur spécialisé comme Alexandre Bagbila, qui a travaillé pendant 15 ans en France, d'ailleurs, qui s'est formé en France, qui a travaillé 15 ans en France, et qui a fait le choix de revenir au Burkina Faso pour d'abord s'y occuper d'un centre de jeunes délinquants, et qui, une fois à la retraite, a créé un centre de formation pour les jeunes filles déscolarisées. Vous parlez, je ne sais pas, de créateurs d'entreprises comme Sylvestre Ouedraogo, qui a créé une entreprise, une association pour donner des formations sur les nouvelles technologies, ou Sergi Pron, qui a créé Radio Nomal, c'est une radio à Agadez, c'est une radio qui d'information à caractère éducatif et culturel, qui émet dans toute la région d'Agadez. Vous parlez de Ousmane Diarra, qui a créé l'association malienne des expulsés, parce que c'est bien des expulsés, mais au retour, fait quelqu'un pour les accueillir, pour les orienter, pour s'en occuper, pour les orienter et les aider, les soutenir, évidemment. Vous parlez d'altermondialistes, par exemple, militants altermondialistes comme Boussa Tchangari au Niger, qui a créé une radio et un bimensuel alternative, ou Samba Tembeli au Mali, qui est aussi un de la CAD Mali, lutte pour l'annulation de la dette. Bref, les exemples peuvent être nombreux, je ne vais pas insister davantage. Je vais juste conclure pour vous dire que la société civile africaine que j'ai rencontrée, que j'ai eu l'occasion de rencontrer, donc à Louvet, s'est montrée non seulement, comme je vous l'ai dit, solidaire, active, combative, qu'elle est particulièrement lucide, qu'elle est parfaitement consciente des enjeux, qu'elle présente une image totalement différente de l'image qu'on a vraiment l'habitude de véhiculer par rapport à l'Afrique et à la société civile africaine en général, trop souvent dans les médias, que je pense qu'on a beaucoup à apprendre, évidemment, je n'invente rien, de cette société civile africaine. Et alors, la liste pourrait être longue, il ne s'agit pas de revenir, mais je voudrais simplement parler de la fameuse hospitalité africaine et surtout de l'accueil des étrangers, parce qu'il y a une sensibilité particulière, et ça, beaucoup d'intervenants ont insisté sur cet aspect. Le regard sur les étrangers, qui n'est pas le barbare, on parle de montagne, n'est-ce pas ? Chacun trouve barbare ce qui n'est pas de son usage, mais qui est une ouverture sur l'étranger, une autre, non pas le repli et l'identitaire qu'on a vraiment l'habitude, et qui est d'ailleurs très à la mode aujourd'hui, mais qui est une ouverture sur l'autre. Je voudrais quand même préciser juste à ce niveau-là, et je vais conclure là-dessus, reciter, hélas, un écrivain français qui disait d'ailleurs à ce propos: moins les gens sont civilisés, plus ils méprisent les étrangers. Du séjour en Amérique du Sud, si vous voulez, j'ai écrit un bouquin sur les disparus du Pérou. disparu du Pérou. Enfin, comme j'ai vécu au Chili, je connaissais bien à l'époque de Pinochet, pour être précis, sous la dictature de Pinochet. Je connaissais très bien les femmes de disparus, je change totalement de sujet, mais les femmes de disparus chiliens. Et j'avais été amené à écrire des articles à ce sujet. Et j'ai voulu, elle m'a dit, mais pourquoi ne pas écrire un livre là-dessus? Donc j'étais parti avec cette idée-là au départ. Je suis allé au Chili, je suis allé en Argentine, je suis allé au Pérou et en Bolivie. Et je me suis rendu compte, disparu chilien, disparu argentin, tout le monde le connaît et a entendu parler, et tant mieux, parce que ça vient du type de disparu aussi. Ce sont des ouvriers, des intellectuels, des étudiants, etc., qui se sont réfugiés en France, en Europe, et qui ont pu faire passer leur message. Puis la situation chilienne était très particulière, évidemment. Je suis peut-être un peu trop loin du micro, là. Et voilà. Et donc, j'ai été amené à connaître le Pérou, et à découvrir qu'au Pérou, il y avait eu 10 fois plus de disparus au Pérou qu'au Chili. Il y a eu entre 12 et 15 000 disparus au Pérou. Dans la guerre qui a eu lieu entre 1980 et 2000, entre le sentier de Mideux et l'armée péruvienne. Bref, j'ai donc écrit un bouquin à ce sujet-là. J'ai été amené à le présenter, à faire des soirées. Et lors de ces soirées, en présentant le bouquin, j'expliquais que justement la majorité des disparus péruviens, j'y viens, étaient des Indiens. Des Indiens de l'Altiplano, donc des hauts plateaux péruviens, ou de l'Amazonie. Des Indiens qui étaient méprisés et victimes d'un racisme très fort dans leur propre pays, au Pérou même. Donc, les Indiens disparus ne comptaient pas, n'avaient aucune importance au Pérou même, encore moins au niveau international. Donc, je citais des passages dans le livre du racisme vis-à-vis des Indiens. Et je ne sais plus qui, à l'occasion d'une soirée, m'a dit « Mais en France, on n'en est plus là. » Il me semble avoir montré que c'est encore le cas, pourtant.
Un thème qui m'intéresse, c'est l'accaparement de terres. Est-ce que tu as eu des contacts avec des groupes de résistance par rapport à ce thème? Et une autre question, au Forum mondial, Forum social mondial à Porto Alegre en 2001-2002, il y avait des théoriciens d'Afrique qui parlent de déglobalisation. Est-ce que c'est encore un thème de couper l'orientation de l'Afrique et l'Asie et de l'Amérique latine vers les pays industrialisés et de se faire un développement solidaire entre eux, entre pays en développement? Est-ce que cette théorie est encore en vogue ou est-ce que c'est complètement dessoué maintenant?
On va parler de l'accaparement des terres. C'est un problème typique justement de l'Amérique latine, le problème des terres, la répartition des terres. J'ai été amené à ce sujet-là avec Ousmane Tsendé Béongo, dont je parlais, qui a donc créé un syndicat paysan et qui lutte contre l'implantation des OGM au Burkina Faso. Et il m'expliquait qu'il y avait... Il faudrait reprendre toute son histoire, mais il l'explique depuis le début. En effet, de plus en plus, c'est un véritable problème, le problème de la terre maintenant en Afrique, comme ça l'était en Amérique latine. L'accaparement des terres est une réalité qui existe aujourd'hui en Afrique de l'Ouest, en effet, de plus en plus. Ça n'était pas le cas il y a quelques dizaines d'années de ça, mais maintenant c'est devenu un vrai problème, comme ça l'était depuis de nombreuses années en Amérique latine. Alors, dans le cas du témoignage d'Ousmane Tiendré-Leogo, donc au niveau justement de l'implantation des OGM, c'est pas très vieux, hein, je crois que les premières expériences OGM, c'était en 2001, je crois, avec Monsanto, évidemment. Et puis les essais à une échelle importante, je crois, alors j'ai peur de dire des bêtises, mais je crois que c'est 2005-2006. Mais pour lui, tout a été organisé en amont pour... à parvenir à l'expropriation des terres des petits paysans africains. Alors, par des méthodes, il parle de la Sofidex, je crois, etc., qui est un organisme important de la récolte de coton. Hein, c'était, je crois, 80 ou 90% du coton de Burkina passe par cette entreprise, qui a été privatisée d'ailleurs, etc., et qui a organisé l'expropriation des terres des petits paysans. Alors, ça serait assez compliqué d'expliquer quel est le processus, mais lui, il explique très bien dans son témoignage, mais en effet c'est devenu un réel problème. Je sais qu'il y a aussi Samba Tembeli de la CAD Mali donc, qui se bat pour l'annulation de la dette, qui m'a expliqué aussi que le problème des terres, l'accaparement des terres était devenu un véritable problème, qu'on parle beaucoup de l'expropriation des petits paysans en Amérique latine mais pas suffisamment de ce qui est en train de se passer en Afrique de l'Ouest, c'est exact, surtout que c'est une culture vivrière qui est d'ailleurs assuré à 80% par les femmes. Et donc l'expropriation conduit à une aberration, mais ça il faudrait le voir et citer Jean Ziegler à ce niveau-là, qui a écrit d'excellents livres sur le sujet. Alors la deuxième partie de la question, c'était, est-ce qu'il y a déglobalisation? Je ne saurais pas répondre à cette question, tout simplement.
D'abord, je me présente. Hugues Robert, je suis journaliste, mais je suis parti 2 ans au Togo. Alors, d'abord, je suis journaliste, mais j'aime bien être sur le terrain. Donc, je me suis fait d'abord embaucher dans une entreprise, vous allez tous bondir, d'engrais chimiques. Et ensuite, j'ai travaillé la deuxième année dans l'agroécologie. Donc, pour un peu situer. Et c'est vrai que dans l'agrochimie, c'est... Bon, d'une part, je ne dis pas l'esclavage, parce que je dirais presque l'esclavage, c'est presque mieux, parce que le propriétaire, il a intérêt à garder sa force de production intacte. Alors qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que les gens étaient payés non seulement au poids ou à la journée, mais dès qu'ils tombaient malades, on les jetait. Et effectivement, pour dire, le système actuel, puisque c'est de 2010 à 2012, j'ai écrit un bouquin sur ça, mais que je ne publierai pas pour le moment, parce qu'autrement, je ne serai plus là. Donc, pour dire que l'expropriation, c'est quelque chose qui existe de manière, je dirais, colossale en ce moment. Et alors, il y a les deux phénomènes, c'est-à-dire que il y a la résistance, il y a la société civile qui est en train de résister, effectivement, mais il y a aussi des grosses entreprises qui achètent 5 000, 10 000 hectares, et qui, effectivement, avec des villages qui sont complètement expropriés, et aujourd'hui, qui viennent d'ailleurs souvent de capitaux d'Afrique du Sud, ou d'Australie, ou des États-Unis, et qui, effectivement, exproprient de manière radicale toutes les terres des paysans. Et il y a aussi un autre processus auquel j'ai assisté, c'est les rizières. Au Togo, il y a des superbes rizières, et le système est très simple. Ils amènent des bateaux de riz, ils cassent le marché, et ils jettent les paysans, et ils rachètent toutes les rizières, qui sont des rizières qui avaient été construites il y a presque 2 siècles, Donc il se passe aussi ça, et il se passe effectivement des phénomènes de résistance, et que j'ai vu effectivement plutôt dans ma deuxième année au Togo, qui est lié d'ailleurs, parce que dans le Burkina Faso, vous savez que Sankara a été assassiné par les Français et qui travaillait avec Rabit sur l'agroécologie. Et effectivement, il y a des phénomènes de résistance qui sont venus du nord, pour moi c'était le nord Togo, à partir effectivement du travail que Rabi et Sankara avaient fait par rapport à ça. Voilà, donc je dirais qu'il y a en ce moment les deux phénomènes. C'est pour ça que son livre est aussi très intéressant, c'est que la société civile est en train de bouger, c'est-à-dire qu'il y a une société civile qui est en train de résister, de se mettre en place. Et il y a effectivement, nous sommes toujours là, nous sommes toujours très présents, c'est-à-dire que nous sommes en train de piller, de continuer à piller, et je trouve que les premières phrases qu'il a dites, je les ai entendues par la France-Afrique et par les Français, et par d'autres, ça existe encore, mais il y a une société civile qui en ce moment, et moi j'ai été pendant le printemps de Tunisie, je leur disais... Le printemps de l'Afrique est en train aussi de se préparer, et ça, on ne peut que l'espérer, parce que j'ai vu des choses absolument abominables.
Je voudrais juste ajouter quelque chose. Lorsqu'on voit d'ici l'Afrique, on voit peut-être des blancs qui vont faire de mauvaises choses en Afrique et tout, mais ce que je crois aujourd'hui, c'est que ce qu'on oublie, c'est qu'on n'a même plus besoin de se déplacer. Et il suffit pour ça de prendre ce que la nature a donné aux hommes depuis la nuit des temps, c'est-à-dire la semence, c'est-à-dire la capacité à garder un petit peu pour planter plus tard, et donc à être en autarcie, soit tout seul, sa famille, ou un clan, un village, une petite région. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les semences et les denrées alimentaires commencent à être de plus en plus cotées en bourse. Et donc, c'est les bourses qui décident. Et on se rappelle peut-être la famine qu'il y a eu en Égypte. Je suis intimement persuadé que c'est les marchés financiers qui ont organisé les pénuries, organisent les révoltes, organisent tout ça, organisent les faillites, et après, les capitaux arrivent pour reprendre derrière très facilement. On n'a même pas besoin de violence. Et je pense que ce qui est le plus préjudiciable, mais pour nos paysans ici aussi, c'est le fait que la financiarisation des semences avec l'apport des apports chimiques qui sont obligatoires avec rachat de ce qui va permettre de replanter, c'est ce qui permet aux financiers de tout poil et du monde entier de tuer les micro-sociétés. Et vous parlez de globalisation. Je pense qu'on n'est pas prêt d'arrêter la globalisation si on n'arrive pas à enrayer la mise sur les marchés des denrées et que ce soit un système boursier. C'est ça qu'il faut casser.
C'est vrai. Oui, juste, tout à fait d'accord. Juste une petite précision, c'est exactement ce qui se passe avec les semences OGM, justement. C'est exactement ce qu'expliquait Ousmane, Ferme de Béolo, qui expliquait que le petit paysan, en effet, sa seule richesse, c'est les semences qu'il a. Et à partir du moment où ce sont les semences OGM, il est obligé de les payer, en fait. Il est obligé de les acheter. Et le prix, je ne sais plus quand, en 2008, ils ont appris le prix, c'était 10 fois plus cher, 30 fois plus. 30 fois le prix des semences naturelles, le prix des semences OGM. Donc ils sont complètement pris à la gorge, ils sont criblés de dettes, et c'est comme ça qu'ils se font exproprier. C'est comme ça qu'en effet, les grands groupes multinationaux récupèrent les terres, les immenses superficies. En effet, bon, le problème fondamental, il est là.
En fait, moi, je ne suis pas bien d'accord avec tout le monde. C'est que, quand vous dites qu'il n'y a plus besoin de se déplacer, alors ça, c'est une très grosse erreur pour moi. Et les préjugés, ils viennent vraiment de là. C'est-à-dire que qui parle de l'Afrique, c'est des Blancs. Je suis désolée, mais vous avez vécu quelques mois. J'ai vécu 10 ans, il a vécu 20 ans. On a tous été des fois 15 jours, 3 semaines. C'est pas nous qui pouvons parler de l'Afrique parce que nous, on l'a vu par une certaine fenêtre. Chacun a eu son vécu, sauf qu'on comprend pas forcément tout. D'abord, c'est pas l'Afrique, c'est des multitudes de sociétés africaines qui sont extrêmement complexes et que je suis désolée, mais si on n'y passe pas énormément de temps, mais vraiment énormément de temps, si on vit pas, si on n'apprend pas les langues, si on fait pas l'amour avec les gens, si, etc., vivre, je vais dire, eh ben, tout nous échappe. C'est-à-dire que ce qu'on dit ce soir, c'est pas franchement l'essence même de ce qui se passe là-bas. Et que, alors aujourd'hui, ce que je dis, c'est pas du tout à la mode, parce que dès qu'on est blanc, qu'on fout les pieds en Afrique, on est forcément un néocolonialiste. Alors, je suis désolée, mais ça fait partie des préjugés. C'est-à-dire que si on va pas sur place et qu'on cherche pas à se mélanger avec les gens pour essayer de comprendre, bah, comment eux, ils vivent les choses qui nous paraissent normales, et ben non, c'est pas une norme internationale, il y a des choses qui sont normées par rapport à nos cultures, et dès qu'on change de culture, ben on n'est plus dans la même norme. Et ça, si on ne s'y confronte pas au quotidien pendant des mois, des années, on ne peut même pas le sentir. Et ce que je veux dire, c'est que, alors, le préjugé qui est de dire, oh, toi, t'es blanc, tu vas en Afrique, ben peut-être, mais ça, c'est comme dire, tout est blanc ou tout est noir. C'est à un moment donné, il faut essayer de retirer un petit peu toutes ces idées reçues, et même si on n'y va qu'un jour, on ne fait que rien comprendre, et déjà, au bout de 10 ans, on se dit, bah, il y a encore tellement de questions qu'en fait j'en ai plus qu'avant, et puis peut-être que 20 ans après c'est encore la même chose, j'en sais rien, mais de grâce, si on veut parler de l'Afrique, invitons des Africains, quoi, vraiment. Notre salle, là, il faudrait qu'il y ait au moins, une dizaine d'Africains qui viennent parler de comment eux, ils vivent les choses, comment leur représentation des choses, qui sont parfois très semblables aux nôtres, parce que humainement, on partage des choses communes, et parfois très différentes des nôtres, parce que culturellement, on a des appréhensions des choses qui sont très différentes. Et enfin, moi, vraiment, si j'ai une seule chose à dire ce soir, c'est l'Afrique, ça se vit qu'en y étant. Voilà.
Très bien, très bien, très bien. Alors juste une petite précision sur le livre en question, pour que ça soit parfaitement clair. C'est en effet un livre de journaliste, et j'ai eu justement un problème avec mon précédent éditeur là-dessus, parce que lui me demandait d'écrire un essai sur l'Afrique de l'Ouest. Je lui ai dit que j'en étais pas capable, j'en avais ni les compétences, absolument pas la compétence, ni l'envie. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette forme de témoignage. C'est un livre de témoignage. Comme je l'ai expliqué au tout début, je leur donne la parole, parce que je ne me sens pas en droit de dire quoi que ce soit. Où j'ai pris la parole dans ce livre, c'est essentiellement dans les introductions, pour simplement remettre dans le contexte et citer ce que j'ai cité au tout début, c'est-à-dire d'où nous viennent les préjugés, repartir sur l'histoire en règle générale, et notre histoire en Afrique en particulier. Mais ce livre, il y a 300 pages, à, je dirais, 250 pages, ce sont des témoignages recueillis sur place. C'est donc eux qui ont la parole, ce n'est pas moi qui ai la parole. Ça, c'était la précision que je voulais vous donner. Je n'ai surtout pas la prétention de... Et je suis tout à fait d'accord, il serait d'ailleurs intéressant s'il y a des personnes qui ont envie de prendre la parole, qu'elles la prennent justement ce soir à ce niveau-là.
Après, ouais. Il n'y a plus qu'à aller.
Il n'y a pas de commun.
La situation.
Moi, c'est Kouman. Bon, mais je suis burkinabé. D'ailleurs, on ne dit pas burkinabé parce que ça, déjà, c'est un truc que je reprends les gens. C'est Burkina. Donc, si on a été au Burkina et que même les Burkinabés ne vous reprennent pas, moi, je trouve déjà pas ça normal. Donc, après aussi, par rapport aux préjugés et tout ce qui en suit, moi, je trouve que aussi, si les Africains se font toujours passer pour les victimes, ça va pas changer, quoi. Ça fait des années que l'esclavage a été aboli. Donc, moi, je trouve que quand même, il faut qu'il, même entre frères, c'est vrai qu'il y a la solidarité, il y a certains trucs qui sont vrais là-bas, mais deux fois, j'ai l'impression que un Africain peut vendre même son propre frère pour pouvoir ne pas mourir de faim. Donc, après, les Blancs qui viennent mettre leurs graines dedans... je trouve ça normal, quoi. Normal parce que nous, en tant qu'Africains, il ne faut pas déjà se laisser faire. Il faut montrer qu'on est intelligent, il faut changer les choses. Donc, et pas se laisser faire. Donc après, si ça continue à se répéter, si en 2016, il y a toujours des gens qui se... des génocides, des machins, c'est pas la faute du blanc, forcément.
Pas que.
Pas que, voilà, donc les Africains, ils ont pas, ils sont capables d'aller aider le voisin quand tout va bien, et quand tout va plus bien, il est encore capable d'aller le tuer. Donc déjà, moi, je suis pas d'accord avec ça, quoi. Donc voilà. Après, bon, je sais pas si tout le monde m'a compris, mais voilà, après, qu'est-ce que je veux dire d'autre? Comme disait Fabienne, il faut vivre là-bas pour comprendre comment on est, comment on vit. Et déjà même, moi je suppose que nous, les Africains, on était tranquilles en Afrique. Et il y a les Blancs qui sont venus déjà bouleverser notre situation, comment dire, notre mode de vie. Et après, nous... Et même le Blanc, il a créé l'argent, il a fait des frontières, il nous a imposé des trucs qui n'étaient pas forcément la religion déjà. Et quand on a fini de prier, on a ouvert les yeux, ils étaient partis avec tout. Donc, après je me dis que maintenant, on prie toujours. Et il y a des choses aussi par rapport à la religion, où les gens ils se disent, bon, c'est la volonté de Dieu si mon enfant meurt, c'est la volonté de Dieu s'il y a ci, s'il y a cela. Mais bon, moi, je ne pense pas que quelqu'un qui tue tout le temps vos enfants, vous ne devez pas le prier, quoi. Donc, si ça a été la volonté de Dieu, ou je ne sais pas. Donc, après, il faut arrêter. Il faut arrêter de toujours accuser Dieu ou de se battre et d'arrêter les préjugés, même envers les Blancs ou envers les Noirs, et voilà, et avancer dans la vie et ne plus se laisser faire, et puis se dire que maintenant on a été colonisé, maintenant on a pris notre indépendance, et indépendance, ça veut dire que voilà. Et je sais pas, on a quand même, en Afrique, je trouve qu'il y a de l'or, il y a du diamant, et on dit toujours aujourd'hui que c'est le continent le plus pauvre. Moi, je comprends pas, quoi. Je comprends pas. Donc, voilà. Après, c'est aux Africains aussi de d'ouvrir vraiment les yeux et d'avancer, quoi. Merci.
Très bien. Alors, la remarque sur Burkina et Burkina, tout à fait exact. Là, on me l'a dit, on me l'a fait remarquer tout de suite quand je suis arrivé. J'ai retenu la leçon pendant les mois où j'étais là-bas. Et puis voilà, les années ont passé, j'ai oublié. Donc, toutes mes excuses, mais vous avez 100% raison là-dessus. Sur le côté victimaire, les gens que j'ai rencontrés n'avaient rien de cet aspect-là, n'était absolument pas dans la victime en disant tout est de la faute des Blancs, etc. Pas du tout, au contraire, c'est des gens qui se battent au quotidien, qui sont très actifs, comme je l'ai expliqué, qui sont très créatifs, qui cherchent, qui avancent. Et donc le discours victimaire ne leur plaît pas non plus, pas du tout même. Ils cherchent à avancer. Je ne sais plus, c'était Alexandre Babila qui me disait, mais bon, la colonisation, oui, bien sûr, ça fait beaucoup de dégâts, d'ailleurs, au niveau culturel, comme vous l'avez dit, bien sûr, mais il faut avancer. Hein, quel pays n'a pas été occupé au cours de son histoire? C'est ce que me disait Alexandre Babila. Il faut avancer maintenant. Bon, on a été colonisé, oui, c'est un fait. Bon, il y a aussi, alors, il faudrait peut-être revenir sur la situation économique et politique aujourd'hui, et la situation financière, parce que les pays africains ne sont pas les seuls à subir les affres de la mondialisation, comme on l'appelle, les affres de la société, de la finance internationale, c'est clair et c'est net. Mais tous ces gens-là ne sont pas du tout dans le discours victimaire. Que ce soit les altermondialistes, d'ailleurs, que ce soit des chefs d'entreprise dont je parlais, je pense à tous ceux qui se battent au quotidien pour essayer de faire avancer les choses. Donc, discours victimaire, ils n'en veulent pas non plus. Le passé, c'est une réalité. Il faut connaître l'histoire. Il faut savoir ce que ça signifie. Il faut non pas non plus, je pense, le débat, oui, a certainement eu lieu dans jeudi en question, au propos de l'action des ONG, la vision qu'on peut avoir quand on arrive là-bas. Il y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup d'ONG qui font un excellent travail et d'autres beaucoup moins, au moins qu'on puisse dire. Mais il faut voir aussi cette vision un peu compassionnelle que l'on peut avoir, qui remplit aussi un vide et sur lequel on peut se poser un certain nombre de questions, c'est sûr. Mais vous avez bien raison de le souligner, c'est aux Africains eux-mêmes d'avancer, c'est aux Africains eux-mêmes de faire avancer les choses, c'est sûr. Voilà, je pense que là-dessus, la remarque me paraît tout à fait juste. Mais il ne faut pas oublier ni l'aspect politique, ni l'aspect économique, ni l'aspect social, ni l'aspect financier. On en est tous victimes à un niveau ou à un autre. Ça, c'est aussi une réalité, évidemment.
C'est une grosse réalité.
Je crois que l'Afrique, et c'est aussi le monde diplomatique qui disait ça, que c'est le deuxième moteur de croissance, le deuxième continent moteur de croissance.
C'est la France, hein,
après l'Asie, actuellement.
8% de croissance en Afrique.
Oui, je sais, c'est exact. Ouais.
Mais nous, on est à 0.
Oui, puis oui, plus de 5% que les 10 dernières années.
La croissance. En plus, elle est grâce à l'Afrique. Parce que le franc CFA nourrit les Français.
Il faudrait parler du franc CFA.
Le franc CFA.
Qui est géré par le Trésor français.
Par le Trésor du français.
Il y a quand même beaucoup de choses à dire là-dessus. Enfin bon, c'était pas le sujet du livre. Et puis je me dis au colonialisme français.
Je peux vous donner des chiffres. Hein.
Il reviendra. Il y a la question de la part là.
Si j'ai bien compris, il y a un des problèmes, c'est le découpage colonial qui a vu qu'il y a plusieurs ethnies qui n'ont jamais vécu ensemble, se trouvent dans le même état. Est-ce que les groupes dont toi tu parles, les syndicats des paysans, des gens qui replantent, est-ce qu'eux sont capables de franchir ces clivages entre les tribus? Je ne sais même pas comment il faut le dire, ethnie. Ou est-ce que ça reste dans le même... Je ne sais même pas comment vous dites.
Je crois qu'il y a une citation qui me vient à ce niveau-là, qui n'est pas de moi. C'est d'un auteur africain, je crois, qui disait qu'il y a...